Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotta.
Que devient une œuvre quand on lui ôte son attribut cultuel symbolique et qu'on l'expose dans un musée, qui plus est dans un lieu étranger? Les statues peuvent-elles mourir et renaître? Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
C'est l'une des questions que l'on se pose quand on voit Dahomey, le film qui a décroché l'Ours d'Or au dernier festival de Berlin. Bonjour Mathilde Diop.
Bonjour.
Merci de venir nous parler longuement de votre nouveau long métrage, un film qui hybride les formes entre documentaire et essai poétique. Puisque vous avez suivi en novembre 2021 la restitution de 26 œuvres d'art à la République du Bénin, 26 trésors royaux du Dahomey, pillés par les troupes coloniales françaises à la fin du 19e siècle, mais aussi les débats que suscite ce retour parmi la jeunesse béninoise.
The Golden Bear for Best Film goes to the movie Dahomey by Mathy Diop, produced by Eve Robin, Judith Lou Levy and Mathy Diop.
You have to choose. As a French and English woman, as an Afro-descendant filmmaker, I have chosen. We are among those who refuse to forget. We are among those who refuse to accept amnesia as a method.
Voilà, c'était en février dernier, Mathy Diop, vous receviez l'Ours d'Or de la Berlinale des mains de la présidente du jury, Lupita Nyong'o, et vous dites qu'il y a un choix à faire, mais que vous, en tant qu'afro-descendante, réalisatrice franco-sénégalaise, vous vous refusez l'amnésie comme une méthode. C'est ça le point de départ de votre film ?
Oui, je précise que j'emprunte à Aimé Césaire ces mots. Hein, c'est quand même important de le rappeler. C'est un texte sur lequel j'ai eu le sentiment de m'être vraiment appuyée. Et c'est exactement le point de départ du film aussi. Le sentiment d'avoir été, en fait, finalement... sous l'emprise d'une amnésie qui ne serait plus qu'un trauma, mais qui serait devenue une méthode, en effet. C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'une amnésie est un trauma et jusqu'où on utilise ce trauma comme méthode d'effacement, comme méthode de non-reconnaissance d'une histoire, de refuser de prendre la responsabilité historique et politique d'une histoire. Ça résonne à la fois avec la question de la restitution et ça résonnait précisément aussi avec le contexte politique dans lequel j'ai présenté ce film en février dernier. Et tout est parti en effet en 2017 lorsque le mot restitution refait surface dans le champ politique français, alors que c'est une question très ancienne qui a été énormément pris en charge du côté du continent africain, par des activistes, par des militants, par des figures politiques. Tout d'un coup, Macron, en 2017, prononce ce discours qui encourage, sous 5 ans, des restitutions importantes vers le continent africain.
Et il a missionné, effectivement,
Fel Winsar et Bénédicte Savoie, absolument.
Pour faire ce rapport.
Ce rapport, qui est devenu un outil politique, en fait, finalement, majeur et extrêmement éclairant, qui m'a beaucoup évidemment accompagnée ces dernières années. Et c'était assez étrange finalement d'entendre de la bouche de ce président ce mot si profond. Et finalement, plus je réfléchis à la question, moins je suis convaincue que c'est un mot que les politiques, en tout cas les anciennes puissances coloniales, peuvent vraiment s'approprier, puisque je ne suis pas certaine qu'une ancienne puissance coloniale comme la France ait vraiment ni le rôle ni le pouvoir de restituer. Je pense qu'elle a le pouvoir de rapatrier, mais que finalement, ce qui peut davantage prendre en charge le rôle de restituer, c'est peut-être plus le cinéma, les artistes.
Mais quand vous concevez ce projet, Mathy Diop, c'est déjà dans l'idée, comme vous le dites, dans l'esprit de prendre votre part en tant qu'artiste afro-descendante de ce nécessaire travail de restitution, puisque vous, vous êtes plus habilité à le faire que les autorités françaises, où au départ, il y a une sorte d'élan brut, si je puis dire, de capter la mémoire, en fait, enfin, de faire travail de mémoire immédiat. Enfin, je sais pas si c'est...
Mais il y a d'abord, en 2017, l'intuition que je vais avoir besoin d'y consacrer un temps de réflexion et que ça passera sans doute inévitablement par un film qui a été précipité. Donc à la base, c'était plutôt un film de fiction que j'envisageais, où je voulais suivre tout le parcours d'une œuvre entre le moment de sa captation, de son pillage, jusqu'à sa restitution, que j'imaginais dans les années 2070 environ.
Ah oui.
Oui, que j'aurais jamais imaginé arriver plus tôt.
Je pensais pas que c'était possible.
Non, non, du tout. Je pensais que ça allait être encore soumis à l'inertie, au déni. Malgré ce discours, je m'attendais absolument à aucun mouvement, en fait. Et en 2021, bah, finalement, l'histoire me donne tort, puisque j'apprends dans la presse l'imminence du rapatriement de 26 trésors royaux. Et entre ce moment et le départ de ces œuvres, j'ai eu 2 semaines avec mes productrices pour mettre en place un tournage et donc pour accompagner ces œuvres entre le moment de leur retrait des vitrines, leur mise en caisse, jusqu'à l'arrivée de ces pièces à Cotonou. Et je voulais absolument tout suivre. Et je l'ai vraiment pris au pied de la lettre, c'est-à-dire que j'ai vraiment souhaité accompagner au rythme presque du cœur de ces œuvres leur voyage comme une expérience intérieure, comme une odyssée. Et surtout, il me semblait que c'était fondamental de documenter en tant que cinéaste, d'archiver ce moment historique, que c'était très important en fait et que ça m'a pas rappelé, mais ça a redonné aussi ce sens au cinéma, de répondre en fait aussi à certains événements historiques envers lesquels il faut regarder, qu'il faut prendre le temps de regarder, qu'il faut prendre le temps de documenter. Je pense que notamment en tant que cinéaste afrodescendante, l'importance de créer nos propres archives, de les créer et de les rendre disponibles et de les prendre en charge en fait nous-mêmes. Donc l'urgence de l'archive, elle était vraiment importante pour moi. Et le refus aussi de laisser cette question, cette restitution en particulier, accaparée par les politiques et la laisser devenir une actualité parmi d'autres dans le flux médiatique. Je trouvais que c'était impensable de ne pas marquer ce moment, de l'immortaliser à travers un film. Et puis ensuite, la question d'interroger de jeunes Béninois sur cette question est arrivée très peu de temps après. Je pensais à l'origine ne me contenter que du voyage. Je trouvais que c'était déjà important de documenter ce moment. Et c'est quand il a été question de faire un film plus long que j'ai très vite compris que le seul autre point de vue en dehors des œuvres elles-mêmes qui m'intéressait de convoquer, c'était celui de jeunes étudiants béninois qu'on n'avait jamais entendus, en fait, sur une question qui les concerne pourtant principalement, selon moi.
Le retour au pays natal, si je puis dire, de ces 26 trésors, on en parle, on va en parler dans quelques minutes plus longuement, Mathidiom, mais je vous propose une petite bifurcation qui va passer par Venise, car on connaîtra dans quelques heures le film lauréat de la Mostra, l'autre grand festival international après Cannes et Berlin. Elisabeth, vous étiez l'envoyée spéciale de RFI sur la Lagune. C'était une édition particulièrement glamour.
C'est ça, c'est la présence massive des stars qui a marqué cette année la Mostra, avec énormément d'acteurs, d'actrices de catégorie A, comme on dit aux États-Unis, Angelina Jolie et Nicole Kidman en début de festival, auxquels ont succédé Brad Pitt et George Clooney, Tilda Swinton, Julianne Moore, bien sûr Lady Gaga, Joaquin Phoenix pour Joker, Folie à deux, enfin voilà. C'était une sorte d'émeute perpétuelle sur le tapis rouge, mais la personne qui parle de ça le mieux, bien sûr, c'est Alberto Barbera, le directeur artistique de la Mostra. J'ai pu le rencontrer en début de festival.
On n'a jamais eu une liste des stars et starlettes sur le tapis rouge aussi longue, aussi impressionnante. Pas seulement en comparaison avec l'année dernière qu'il n'y avait pas de stars à cause de la grève hollywoodienne, mais je ne me rappelle pas d'une liste aussi longue de stars à Venise depuis une éternité, je dirais.
Fontaine d'ici avec Starbuster sur RFI. C'est le choix de notre réalisatrice Apolline Verlon. Vous êtes bien à l'écoute de RFI, l'émission Tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Mati Diop pour parler de son nouveau long métrage Dahomey. De la bande-annonce de Dahomey. Mati Diop, vous filmez le voyage retour de 26 trésors royaux, mais il y en a un en particulier que l'on suit, que l'on entend même en voix off, hein, cette voix d'ailleurs qu'on a entendue, qui parle en langue fond et qui dit « J'ai longtemps voyagé dans ma tête, mais il faisait si noir dans ce lieu étranger. Nous sommes des milliers dans cette nuit. » Déraciné, arraché, butin d'un immense pillage. Cette voix, c'est celle que vous prêtez à la statue anthropomorphe du roi Gezo. Pourquoi cette statue-là en particulier ?
Ben, cette statue-là en particulier pour brasser le plus loin, le plus large et le plus ample possible, en fait. Déjà, c'est la plus anthropomorphique de toutes. C'est... Je pense qu'il fallait choisir une œuvre parmi les autres pour s'identifier à une odyssée intérieure, à une expérience sensible. Et voilà, Gezo me semblait être vraiment la statue envers laquelle il était le plus simple, tout simplement, de s'identifier pour le spectateur. Et pour moi, ce pouvoir d'identification était extrêmement important puisqu'il ne s'agissait pas, à travers cette voix qui est rendue à ses œuvres, à cette œuvre et à toutes les autres... au-delà de rendre une voix, c'était de convoquer, d'évoquer toute une communauté d'âmes bien plus large que celle des œuvres, mais aussi une communauté d'hommes et de femmes déportés pendant la traite, dépossédés, colonisés, et d'évoquer aussi une communauté d'âmes plus récentes, plus contemporaines, d'exilés, de diaspora. Je repense au témoignage de cette femme haïtienne au sein de l'exposition... recomposé au sein du palais présidentiel, qui fait un parallèle très beau entre le retour de ses œuvres et ce mouvement auquel on assiste de plus en plus importants, de la nécessité d'une reconnexion, d'un retour d'une certaine diaspora vers ses origines africaines. Et c'est aussi ce que portent en leur sein ces œuvres.
Et c'est pour ça que vous avez fait appel à l'écrivain haïtien Mackenzie Hersel pour écrire ces textes.
En tout cas, pour moi, la personne, la seule écrivaine qui pouvait écrire ces mots était forcément haïtien, en hommage et en référence historique aux descendants d'esclaves haïtiens, dont la plupart ont été déportés notamment du golfe du Bénin. Et j'ai fait la rencontre de Mackenzie Hersel peu de temps après, à qui j'ai choisi de confier ce texte. Le montage était déjà très avancé lorsqu'il est intervenu.
Donc cette idée, du coup, fait glisser aussi le film vers le fantastique. Donc d'entendre ces statues ou ces statues qui parlent, enfin d'entendre leur voix off, presque leur antériorité, ça c'est venu en cours.
Ça c'est la première
de montage.
Non, ça c'est la première idée et l'axe de gravité de toute la mise en scène du film. C'est au moment où je choisis de consacrer ce film à ce rapatriement, à cette restitution, je sais déjà que ces œuvres parleront. Alors, quand je dis parleront, ça ne veut pas forcément dire à travers des mots, mais je sais instantanément que le parti pris sera de faire ce voyage-retour avec ces œuvres à partir d'elles-mêmes, de leur point de vue, et qu'elles redeviendront narratrices et actrices de leur propre histoire. Et avant même de leur attribuer des mots, une histoire, ça passe d'abord par le dispositif filmique, par la façon de les filmer, ces œuvres, de les regarder. Alors, c'est vrai que le film commence par leur voix dans les sous-sols, dans les réserves du musée. Mais pendant longtemps, le montage commençait déjà à l'étage où on les enlève des vitrines, où on les met en caisse. Et même sans mots, ces œuvres nous parlaient déjà. C'est une façon de les regarder, de les filmer, de les rendre sujettes et non plus objets. Et ça passe aussi par un langage filmique, par une manière de les regarder, par choisir les axes, transmettre au spectateur le sentiment que ce voyage se fait depuis leur intériorité. Et c'était tout l'enjeu, c'était pas simplement filmer la restitution de façon objective, c'était de reposséder ces œuvres de leur propre pouvoir d'action.
D'ailleurs, la caméra est avec elle presque dans la boîte, presque comme si c'était enfermé un cercueil, et on rouvre aussi une fois au Bénin.
Mais les mots sont devenus quand même fondamentaux, importants, puisque c'était sans eux, je n'aurais pas forcément pu contextualiser le noir des sous-sols du Quai Branly, où se trouvent des centaines de milliers d'œuvres dans les musées européens. Et ça, c'est une... Ces faits historiques qui sont très connus des experts de la question, des universitaires qui travaillent sur cette question depuis toujours, mais cet espace d'abandon, d'oubli, d'effacement, de négation que sont les sous-sols des musées européens, très peu de gens ont conscience en fait de ça. Ils visitent ces musées, ils découvrent tout ce patrimoine africain dans les musées. Ils voient ce qu'il y a dans les vitrines, sans exactement d'ailleurs, en général, la plupart du temps, il n'y a aucun contexte. La violence inouïe du contexte colonial dans lequel elles ont été pillées n'est pas effacée. Bénédicte Savoie en parle très bien dans son dernier ouvrage sur la question. Donc non seulement il y a un effacement de la violence du contexte historique, mais on n'imagine absolument pas le nombre d'œuvres, la quantité de patrimoine africain enfermés, incarcérés dans des caves, dans des sous-sols. Alors voilà, on nous dira préservation, ok, mais c'est extrêmement important, je pense, que le commun des mortels prenne conscience qu'une grande et très large partie du patrimoine africain se trouve dans des caves, dans le noir. Et
d'Afrique.
Voilà. Et pour moi, c'était fondamental de commencer ce récit par ce noir, par cet espace d'effacement. Et c'était aussi très important, notamment lors du voyage de Paris jusqu'à Cotonou en cargo, d'avoir la possibilité d'évoquer le premier voyage de déportation de ces œuvres et le contexte aussi dans lequel cette déportation s'est faite, de convoquer la mémoire qui l'accompagne et de permettre aux spectateurs de faire une expérience de cette histoire d'aller au-delà des faits historiques, d'en faire une expérience sensible, profonde, et de lui permettre de faire ce chemin lui-même à partir de son imaginaire, à partir des mots que racontent ses œuvres, que ce soit le spectateur qui prenne lui-même, en fait, qu'il ait la liberté lui-même de faire ce chemin, en fait, d'entrer en relation bien plus sensible à cette histoire.
Alors évidemment, votre sujet, Mati Diop, hein, la restitution des œuvres d'art et de culte pillées pendant la colonisation, c'est un sujet inédit, mais il y a quand même une référence, un film de 30 minutes datant de 1953, signé Alain René et Chris Marker, intitulé « Les statues meurent aussi ». C'est un essai filmique qui interroge le regard européen sur les œuvres africaines et puis leur conservation, justement, dans les musées occidentaux. Et d'ailleurs, ce film a été censuré en France pendant 8 ans avant d'être projeté en 1964 dans une version tronquée.
Colonisateurs du monde, nous voulons que tout nous parle. Les bêtes, les morts, les statues. Et ces statues-là sont muettes. Elles ont des bouches et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne nous voient pas. Et ce ne sont pas des idoles, plutôt des jouets sérieux, mais qui ne valent que parce qu'ils représentent. Il y entre moins d'idolâtrie que dans nos statues de saints. Personne n'adore ces poupées sévères. La statue nègre n'est pas le dieu, elle est la prière.
Il y a un dialogue, Mati Diop, entre les statues meurent aussi. Quand, là, on entend un commentaire, il dit « ces statues sont muettes » et Dahomey, comme si Dahomey pouvait être une réponse, une continuation de ce film.
Oui, en tout cas, j'étais consciente que, enfin, quand j'ai enclenché ce film dans un contexte très urgent, c'est le seul film sur qui s'empare de cette question que je connaissais. J'en ai découvert d'autres ensuite. Oui, il y a bien sûr qu'il y a eu un effet d'écho, de dialogue. J'ai pas souhaité revoir le film tout de suite. J'ai juste revu des images parce que j'étais assez inquiète par la question de comment filmer ces œuvres dans un contexte où il n'y a aucune maîtrise sur la lumière, on va devoir... Ma chef opératrice, la chef opératrice du film et moi allons devoir nous adapter en fait à toute une logistique, alors que Les Statues est non seulement un film politique très radical, mais aussi d'une grande beauté plastique. Et donc j'ai regardé des images pour voir comment ils s'en étaient sortis à ce niveau-là, mais rien à voir. Eux, ils ont eu, je pense, le temps de composer leurs plans, tandis que nous étions contraintes et soumises à un contexte documentaire, c'est-à-dire que
l'urgence,
on nous attendait pas pour refaire les plans, il y avait qu'un axe et qu'une prise. Mais je suis restée quand même assez... J'ai préservé une distance vis-à-vis du film que j'ai pas vraiment voulu justement considérer comme une référence, mais plutôt comme un dialogue lointain, un écho. C'est après Dahomey que j'ai revu le film et qui m'a vraiment impressionnée de radicalité, quoi.
Donc, Mati Diop, effectivement, il y a plusieurs parties, plusieurs fils dans votre film, et vous l'avez un peu abordé. Il y a ces statues, ces trésors, mais vous avez tenu à filmer aussi la réaction de la jeunesse béninoise. Vous avez filmé tout un débat, parfois animé, entre étudiants à l'université d'Abomey.
J'ai grandi en regardant Avatar, j'ai grandi en regardant Tom et Jerry. Mais je n'ai pas grandi en regardant un film de dessin animé qui est centré sur Béhanzin, qui est centré sur notre héritage culturel. Donc du coup, durant mon enfance, je n'ai pas eu vent de ce qu'il y a eu des œuvres qui nous appartenaient, qui ont été déportées et qui vont revenir on ne sait quand. Donc du coup, j'ai grandi dans l'ignorance de ce que mon patrimoine, ma culture, mon éducation, ma vie, mon âme, est resté à l'extérieur pendant des siècles.
Là, vraiment, Mati Diop, ce que dit cet étudiant, ça prouve toute la force, toute l'importance. Il faudrait trouver un mot plus important qu'important de ce retour. Hein. Ce jeune homme qui explique qu'il n'a pas grandi avec sa culture, en fait.
Oui, et pour certains, en tout cas, des étudiants que j'ai rencontrés, c'est précisément ce rapatriement, cette restitution, qui leur a fait prendre conscience
du manque
de ce qu'ils ne savaient pas exactement. C'est-à-dire que tout le monde sait que quelque chose a été volé, aucun jeune ne vous dira qu'il a pas entendu parler de l'esclavage, de la colonisation, évidemment. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une connaissance des faits sans exactement pouvoir vraiment dire non plus nous avons grandi dans l'absence totale de ce patrimoine, en tout cas matériel. Et donc pour moi, c'était fondamental d'interroger cette jeunesse, en particulier ces étudiants béninois. Je pense qu'eux-mêmes, dans ce débat, se sont sans doute confiés sur leur rapport à cette histoire et à tous les manques qu'elle suscite.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils refusent, enfin certains en tout cas, même sont en colère ou refusent juste de saluer. Évidemment, ils saluent le retour, mais ils sont pas qui sont là, ils sont pas juste là en disant c'est génial, quoi. C'est au contraire,
bien sûr,
il y en a beaucoup qui soulignent qu'il y en a encore 7000. En France, peut-être plus, sans doute.
Mais ils sont déjà absolument pas dupes des enjeux de quelque part de la supercherie diplomatique que c'est aussi, pas seulement, et c'est ça qui en fait un sujet extrêmement complexe, c'est que c'est ni une supercherie diplomatique, c'est aussi un moment symboliquement, historiquement majeur, tout en étant aussi récupéré politiquement. C'est beaucoup de choses à la fois. Et donc l'idée, c'était justement de réunir des étudiants suffisamment qui avaient un regard suffisamment singulier et contrasté sur la question pour restituer la complexité du sujet, l'ampleur du sujet, et saisir l'opportunité de cette restitution pour interroger tout ce que cette restitution finalement révèle du rapport à un passé, à une histoire non transmise, aux traces de l'histoire coloniale dans le présent, à sa persistance dans les imaginaires, à toutes les lacunes. Et ça aussi, c'est un projet très précis qu'elle a produite. C'est pas des lacunes, c'est des lacunes...
Orchestrées, vous voulez dire ?
Oui, absolument. Et voilà, il me semblait vraiment important de se saisir de ce moment pour interroger tout ce que la restitution, en fait, remue, révèle, c'est ça.
Comment vous avez fait ? C'est vous qui avez provoqué ce débat ?
Oui. En fait, je me suis d'abord renseignée à savoir si un débat avait été spontanément organisé au sein de l'université. Il y a eu une petite émission au sein de la radio du campus, mais aucun débat de cette ampleur. Et quand j'ai su qu'aucun débat n'avait été organisé, je l'ai en effet orchestré en procédant un peu comme en fiction, à un casting où je suis allée à la rencontre de différents groupes de jeunes étudiants en toutes disciplines confondues, histoire de l'art, économie, sciences politiques. Encore une fois, réunir des profils qui pouvaient assumer une parole libre, ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui au Bénin, qui pouvaient assumer un propos personnel, qui pouvaient assumer un propos critique surtout, et surtout qui avaient un point de vue pertinent, particulier sur la question. Alors pas forcément, je ne cherchais pas forcément des profils qui en savaient beaucoup, c'est pas ça, c'est qu'il y avait un rapport personnel à la question, soit qu'il y avait un avis critique sur la dimension justement politique de la question, ou des jeunes que ça n'intéressait pas du tout justement, parce qu'ils se sentaient très détachés de cette question finalement. Et donc voilà, j'ai réfléchi aussi évidemment à un ensemble de questions que je voulais poser et j'ai mis en place cette agora. Et finalement, ça consiste à créer, à sculpter presque un espace qui permet de faire émerger cette parole libre. Et je pense que comme pour moi, et pas que pour moi, mais la restitution symboliquement représente vraiment quand même l'effondrement, je ne sais pas, mais il y a quand même un tabou qui s'est... Il y a une situation d'inertie, il y a un tabou qui s'est quand même déplacé. Moi, j'ai vraiment senti, le jour où j'ai entendu le mot restitution refaire surface, une sensation presque tellurique. J'ai eu le sentiment que quelque chose était quand même en train de bouger. Et c'était très impressionnant, puisque c'est une histoire, l'histoire coloniale, qui est soumise à un déni monumental, quoi. Donc, dès qu'il y a de concrètes... avancer en la matière, ça peut provoquer des effets assez bouleversants, puisque psychiquement, on est vraiment plutôt habitué à une forme de coma, d'inertie, de refoulement.
De déni.
Donc quand il est question tout d'un coup physiquement d'un rapatriement qui consiste à accepter l'idée que oui, il y a eu vol, que oui, il y a eu crime, c'est concret en fait.
Alors Dahomey, votre film Mati Diop est sorti il y a quelques mois en salle au Bénin, au Sénégal. Il est donc d'abord sorti en salle en Afrique, et vous y teniez.
Pour moi, c'était tout simplement légitime que le film sorte au Bénin en premier lieu, et au Sénégal aussi.
Ce qui n'est pas toujours
le trajet classique.
Non, en effet.
Et le film, en tout cas, au Sénégal, a à son tour suscité le débat, l'intérêt, extrait d'un reportage à Dakar de Léa Lisa Westerhoff.
À l'écran, la statue du roi Guézo raconte en langue fond son retour d'exil. La salle de cinéma ce jour-là est une salle de classe du département de lettres modernes de l'université Cheikhanta Diop à Dakar. Pleine à craquer, et les questions ne manquent pas. Pourquoi faire parler l'une des 26 œuvres? Pourquoi l'obscurité? Ndeye Dedia, qui prépare une thèse sur la restitution des biens culturels, a été touchée par le film.
C'était génial que Mati arrive à faire parler en fait de ces statues, parce qu'elle leur donne en quelque sorte une âme. Moi, ça me parle fortement et j'aimerais que ça puisse parler à beaucoup d'autres jeunes, etc. Parce qu'en fait, c'est important de savoir où nous venons, pour essayer, comme disait Felwinsa, de reconstruire un peu ce fil de l'histoire qui a été interrompu à un certain moment.
Car la plupart des étudiants qui sont là n'ont jamais entendu parler de ces 26 œuvres pillées en 1892 dans le palais d'Abomey par les troupes coloniales françaises. Comme El Hadj Faye, étudiant en troisième année de lettres modernes.
Un tout peu de break, parce qu'ici en Afrique, vraiment, on n'a pas l'habitude de nous dire nos passés pour aussi voir notre vraie culture.
Hassan Diémé, étudiant en master lettres modernes, confirme.
C'est-à-dire ce que nous devons apprendre à l'école n'est malheureusement pas appris. Je prends l'exemple de la leçon sur Sénégal. Quand je faisais la terminale, je me rappelle, cette leçon fait partie du programme, mais elle est totalement en bas du programme. On apprenait les Chines, guerre froide, Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à la fin du programme pour apprendre le Sénégal. Et le temps ne nous a pas permis malheureusement d'apprendre ce cours-là.
Voilà Mati Diop, hein, on l'entendait, ces étudiants sénégalais ne connaissent pas leur histoire. Non seulement ils ne connaissent pas l'histoire de ces 26 trésors royaux, mais leur propre histoire dans leur propre pays. Ça vous l'avez remarqué lors de votre tournée ?
Je le savais, puisque je n'ai pas le sentiment qu'en France, ce soit beaucoup plus...
Je ne suis pas sûre, effectivement, que ce soit pas forcément. C'est au programme, mais voilà. Comme ce jeune homme, ce n'est pas souvent toujours abordé.
Donc, j'en ai fait d'une autre façon l'expérience aussi. Et non, je pense que c'est l'une des raisons principales pour laquelle j'ai entrepris ce film. C'est pour que ces témoignages, alors là, ce sont ceux d'étudiants qui sortent du film, mais on entend peu ou prou les mêmes réactions sur ce gouffre, cette absence, ce trou noir, en fait, d'une histoire qui n'a pas été transmise, pour différentes raisons, à la fois encore parce qu'il y a vraiment... l'enseignement en Afrique est toujours sous emprise d'un système de pensée coloniale, et que voilà, il y a aussi un travail sur les imaginaires, les mémoires sur le continent à faire, sur puisqu'il s'agit encore une fois d'un trauma, et c'est important d'insister sur ce terme-là. Pour déculpabiliser aussi quelque part les responsables, qui doivent néanmoins très sérieusement prendre la responsabilité envers cette jeunesse africaine de transmission d'une histoire lucide, oui. et objective des faits, qui ne soit pas en fait dont le récit ne soit pas orchestré par l'Occident, que ce soit une histoire qui échappe à l'idée que d'un centre universaliste, occidental, européen, il est vraiment temps de complètement décoloniser l'enseignement en Afrique. Pour moi, c'est une urgence absolue. Et quelque part, passer à côté de cette urgence à travers un sujet comme celui de la restitution, pour moi, c'est presque avoir consacré un film à la restitution pour justement, d'autant plus, pointer du doigt où sont les réelles urgences. Et ce n'est pas une manière de dire que finalement, la restitution, au vu des chantiers auxquels sont confrontés les dirigeants africains, serait
accessoire
ou anecdotique. Absolument pas. Mais quel sens on donne à cette restitution, puisqu'elle s'adresse, selon moi, avant tout à cette jeunesse? À quoi sert une restitution si cette jeunesse n'est même pas en mesure d'honorer, en l'occurrence, et de mesurer l'importance de ce retour, puisqu'une histoire n'a pas été transmise? Donc c'est un seul et même sujet, en réalité.
Et vous allez continuer, Mati Diop, à montrer le film un peu partout, j'imagine. Donc là, il sort mercredi prochain en salle en France, mais après, il va y avoir toute une tournée internationale avec le film.
Oui, il va y avoir une sortie internationale distribuée par Mubi. Donc le film, je vais accompagner le film aux États-Unis. Il passe au New York Film Festival en fin septembre. Je l'accompagne ensuite au London Film Festival. Et ce que j'aimerais, à l'issue de cette tournée, c'est pouvoir faire un travail un petit peu plus de terrain, un petit peu plus précis en Afrique, sur le continent, puisque c'est formidable que le film sorte en salle. Il a été distribué par une jeune société de distribution qui s'appelle Soudou Connexion.
On a été en ligne avec Claire Diao voilà. En juin dernier.
Et c'est formidable que cette structure fasse un travail qui est vraiment très, très, très important d'entreprendre. Et en même temps, qui m'a fait prendre la mesure de la difficulté de faire venir des spectateurs en salle en Afrique, en particulier les jeunes, pour plein de raisons. Mais je continue à croire qu'en parallèle de ces sorties salles, il faut absolument se déplacer avec le film, comme nous l'avons fait dans deux universités au Sénégal, Cheranta Diop, Gaston Berger à Saint-Louis, sur le campus même où le film a été tourné à Abomey-Calavi, juste à côté de Cotonou, et que ce travail-là, en fait, puisque le film s'adresse quand même avant tout à cette jeunesse, pas seulement, il s'adresse à qui à qui
veut bien voir et entendre.
Exactement, de se déplacer le plus possible avec ce film que j'ai fait pour susciter de la réflexion, du débat. Pour moi, s'il n'y a pas vraiment d'échange et de débat après le film dans des capitales africaines, c'est passé un petit peu aussi à côté de la vocation du film. Donc c'est un travail qu'il faudra reprendre après sa tournée.
Merci beaucoup, Mathie Diop. Donc, l'histoire de Dahomey, évidemment, n'est pas finie. Mais en attendant, Dahomey sort en salle en France mercredi prochain, 11 septembre. Qui succédera à Pauvre Créature à la Mostra de Venise? Quel film décrochera le Lion d'Or? On le saura dans quelques heures. Mais nous allons revenir avec Elisabeth sur cette 81e édition, juste après Angélique Kidjo, Sunlight to My Soul.
It's lifting me, taking me so high. This feeling is so fire. You got the touch, that's the touch. I need your kiss is warm like the summer breeze. You pour the good vibes all over my life. You bring the bright, your light, sunlight to my soul.
Chose promise, chose due, on revient avec vous, Elisabeth, sur la 81e édition de la Mostra. Est-ce que c'était un bon millésime ?
Alors d'abord, je vais tirer mon chapeau à Alberto Barbera. Voilà, tout seigneur, tout honneur, il a su attirer sur le lido Beetlejuice, donc le nouveau Tim Burton. Et c'est vrai que, bon, le film a un peu déçu, comme souvent hein, les suites, on n'a pas cet effet d'émerveillement hein, devant le monde poétique et fantastique de Tim Burton qu'on pouvait avoir, je sais, vous étiez très jeune, Sophie, en 1988. Mais quand même, voilà, Beetlejuice, c'est le film d'ouverture parfait. Parce que c'est divertissant, c'est intelligent. Le casting fait plaisir aux fans, puisqu'il a réuni en fait une partie de la team originelle, hein, Michael Keaton et Winona Ryder, et puis des nouvelles tête, Jenny Ortega, Monica Bellucci. Voilà, donc ça, c'était vraiment un très joli coup, il faut le dire. Pour ce qui concerne la compétition, en revanche, je réponds à votre question, hein, Sarah Messec. Je peux juste dire, parler de ce que j'ai vu pendant les premiers jours, les cinq premiers jours de la Mostra que j'ai couvert. Beaucoup de déceptions, en réalité. Bon, exemplairement, un film qui était pourtant très attendu, Maria de Pablo Larraine, biopic de la Callas assez lourdingue, malgré la présence toujours magnétique d'Angelina Jolie. I'm Still Here de Walter Salles, portrait d'une famille brisée par la dictature brésilienne dans les années 70, un film totalement hors scolaire. Donc bon, voilà, je ne vais pas non plus trop charger la barque. Je dirais juste que un film a vraiment émergé du lot, c'est The Brutalist, donc Le Brutaliste. C'était bien gagné, hein. C'est une fresque de 3h30 sur un architecte visionnaire joué par Adrien Brody, qui a fait sensation et qui pourrait, dit-on, être le Lion d'Or 2024. Voilà, on le saura dans quelques heures. Moi, c'est plutôt, en réalité, dans le champ du hors-compétition que j'ai trouvé mon bonheur, par exemple, avec le très joli Peaches Goes Bananas, portrait de la chanteuse et icône queer Peaches par la française Marie Lozier. Un autre doc, Soudan, Souviens-toi, m'a impressionnée, parce que c'est un portrait du soulèvement populaire à Khartoum en 2019, tourné par une très jeune femme française, Hind Medeb. Et on a rarement vu une révolution filmée comme ça, de l'intérieur, avec ce mélange de ferveur, de naïveté parfois, d'espoir et d'enthousiasme. Alors j'ai rencontré la réalisatrice sur le Lido et je lui ai demandé ce qui l'avait conduit, après la chute d'Omar el-Béchir, à Khartoum. Hind Medeb, bonjour.
Bonjour.
En mai 2019, vous êtes partie au Soudan. Le pays était en pleine révolution après la destitution du régime dictatorial. Au moment où vous partez, quels sont vos liens avec ce pays ?
Je venais juste de présenter un mois plus tôt à Cinéma du Réel mon précédent film qui s'appelle Paris-Stalingrad et dont le personnage principal était soudanais, un jeune réfugié soudanais qui arrivait à Paris et qui était poète. Et en tournant ce film Paris-Stalingrad entre 2016 et 2019, je me suis liée d'amitié avec des réfugiés soudanais, la diaspora soudanaise à Paris, des réfugiés politiques. Et donc, quand la révolution a commencé au Soudan et qu'il y a eu la chute d'Omar el-Béchir au mois d'avril 2019, ses amis soudanais à Paris m'ont tous encouragée à partir au Soudan. En fait, ils avaient envie que je leur ramène des images de leur révolution. Ils n'avaient pas la possibilité d'y aller. Ils étaient en train de faire leurs papiers. Et quand je suis arrivée au Soudan, j'ai tout de suite été entourée par des Soudanais qui étaient liés aux Soudanais que je connaissais de Paris.
Donc vous arrivez au Soudan, à Khartoum, c'est la révolution, le pays est en pleine effervescence. Vous vous retrouvez entouré de jeunes gens qui vous appellent l'étrangère, d'ailleurs certains sont des amis à vous. Comment on filme ces moments et comment on se sent dans ces moments ?
Alors c'était très impressionnant pour moi parce que j'avais déjà connu la révolution tunisienne et la révolution égyptienne. Donc j'avais déjà assisté à deux révolutions dans le monde arabe et quand je suis arrivée à Khartoum, j'ai vu quelque chose qui était encore différent, qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu jusque-là. C'était une ville entière, une ville utopique, c'est-à-dire que des Soudanais étaient venus de tout le pays et avaient installé des tentes et occupé toutes les rues. Et ils ont intitulé le lieu, enfin cette ville dans la ville, cette ville utopique, ils l'ont intitulé Etesam. Etesam en arabe, ça veut dire la place de l'attente. En fait, c'est l'endroit où on attend, c'est le sitting, c'est là où on attend que les choses bougent et changent. Donc les Soudanais, en fait, ont beaucoup d'humour et surtout, ils avaient une vision extrêmement précise de la société dont il rêvait et qu'il voulait instituer.
Hinmedeb, les gens que vous filmez, ils ont vraiment grandi sous le boisseau, dans un pays sans aucune perspective. Et ce qui est incroyable, c'est de les voir aussi ouverts, traversés par énormément d'idées, de concepts, la démocratie, enfin, y compris dans leur façon parfois naïve d'en parler.
Alors, je crois que justement, un des avantages du Soudan, c'est que, ayant été à l'abri du capitalisme, c'est-à-dire c'est un pays qui était sur la liste des pays terroristes, le Soudan, pour les États-Unis par exemple, tous les livres dissidents étaient interdits. Et c'est pour cette raison-là que plus les choses étaient interdites, plus les gens essayaient d'aller les chercher. Donc, c'est vrai que j'ai vu une jeunesse qui lit beaucoup plus que nous, une jeunesse pour qui la poésie est omniprésente. Tout ce qui constitue la trame du film, c'est l'écriture poétique et c'est la joute verbale poétique dans la rue.
Hinmedeb racontait aussi la révolution vue du point de vue des femmes. Il y a une scène qui est très forte, c'est celle de cette très jeune femme
Elisabeth
qui est en hijab,
Sophie
la tête, le corps entièrement couvert de noir. Et qui prend la parole.
Cette jeune femme est professeure de sport et elle faisait partie des dizaines de personnes qui se sont mobilisées pour créer une école pour les enfants des rues. Et il y a très peu d'interviews, les gens venaient vers moi et voulaient parler. Et donc quand ils me voyaient, ils venaient vers moi vraiment parce qu'il y avait cette sensation pour eux que cette caméra était une fenêtre sur le monde et une possibilité de lancer un message au reste du monde. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de présenter le film aujourd'hui à Venise, parce que c'est un moyen pour moi de faire que cette parole que les Soudanais souhaitaient être, comment dire, diffusée à travers le monde, ben voilà, de la diffuser à travers le monde, grâce à, comment dire, au coup de projecteur que peut être une sélection dans un festival comme celui-là.
Hinmedeb, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Hinmedeb, la réalisatrice du documentaire Soudan, souviens-toi, que vous avez rencontré Elisabeth, et donc un des films qui vous a le plus impressionné lors de votre séjour vénitien. On n'a pas encore de date de sortie pour ce documentaire.
C'est pas encore arrêté, mais il y a un distributeur français.
Donc on en reparlera sans aucun doute au moment de sa sortie. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré.
Et Sophie Torlotin, à la réalisation, Apolline Verlon.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Apolline Verlon. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.